Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
C'est l'histoire d'un alpiniste qui, après avoir gravi les plus hauts sommets de la planète en y laissant quelques orteils, s'est lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de France exactement, quel que soit le terrain, faire le tour de l'Hexagone en suivant au plus près le tracé exact des frontières, avec pour règle absolue de ne jamais utiliser de moyens de transport motorisés. Il a donc marché, grimpé, pagayé, pédalé, et après 2970 km de frontières terrestres, souvent accidentées et pointues, et 3427 km de côte parcourus en 15 mois, notre alpiniste est revenu à son point de départ, le sommet du Mont Blanc. Un drôle de défi, une véritable épreuve physique et surtout une belle occasion d'aller à la rencontre des autres et de réfléchir à ce que signifient ces frontières que les hommes se plaisent à installer et à défendre. C'est l'histoire d'un alpiniste écrivain, Lionel Daudet, qui va nous emmener très loin en nous tournant tout autour. Il raconte cette aventure dans un livre intitulé « Le Tour de France exactement » aux éditions Stock. Nous vous proposons de revenir sur cette rencontre qui nous avait beaucoup plu. Et puis en fin d'émission, nous resterons en France avec les pages Voyage de Libération Week-end, partenaire du Temps d'un Bivouac, qui nous emmèneront aujourd'hui sur les rives de l'étang de Berre.
Voilà, c'est le vrai départ. On va essayer de traverser ce massif déjà. Donc c'est le vrai départ, c'est le point le plus haut du Tour de la France exact.
Et oui, Lionel Daudet, tout commence donc au Mont Blanc. Pour un alpiniste, ça paraît un peu arbitraire, mais c'est logique finalement, ce Mont Blanc. Pourquoi ne pas avoir voulu partir d'ailleurs ?
C'est vrai que la question du point de départ s'est immédiatement posée, et c'est vrai qu'il y avait plusieurs éléments de réflexion par rapport à la vision de la frontière que je pouvais avoir. Schengen aurait pu aussi constituer un bon point de départ. Le plus près de chez moi, le col du Mont-Genèvre dans les Alpes du Sud aussi, le marais grave de Marseille, le point zéro de l'altitude en France aussi. Mais c'est vrai qu'il fallait quelque chose qui soit symbolique et qui parle à tout le monde. Mmh. Et je me suis rendu compte que le Mont-Blanc avait une force de symbole et dans l'inconscient des gens qui était extrêmement puissant. Et je pouvais me retrouver au fin fond des Ardennes en disant que j'arrivais du Mont-Blanc. Et tout de suite, il y avait une lumière qui jaillissait dans les yeux de mon interlocuteur.
En plus, c'est un point de départ qui aborde déjà la question de la frontière, le Mont-Blanc, parce que c'est un petit peu flou, la frontière entre l'Italie et la France.
C'est plus que flou, c'est un vrai litige. Alors, on fait pas la guerre avec nos amis transalpins, mais il n'empêche que on a cette idée de la frontière qui est extrêmement figée. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, qu'il y a des espèces de mouvements browniens où des choses changent, des choses se complètent, des choses s'échangent. Mmh. Et le Mont Blanc, en fait, est un vrai point de litige dans le sens où les Italiens disent, non, la frontière telle qu'elle a été statuée depuis des siècles est la ligne de partage des eaux, alors que les Français ont complètement englobé le sommet du Mont Blanc, et d'une manière, je dirais, un peu esthétique, et puis pour rendre un peu aussi hommage aux Italiens, j'ai décidé de partir du vrai sommet du Mont Blanc et non pas de suivre à cet endroit-là la frontière telle que les Français l'ont tracée.
Et alors, quand on regarde une carte IGN, elle est marquée où, cette frontière?
Alors, c'est ça qui est très amusant, c'est que quand vous regardez une carte IGN, les cartes IGN top 25 ou un 25 millième, vous avez la frontière telle que la France l'a dessinée. Mais vous avez aussi une autre série de cartes qu'a fait l'IGN en 2002 qui s'appelle les Alpes sans frontières. Et là, vous avez des croix un peu espacées qui permettent justement de ménager les susceptibilités locales.
Oui, et de garder un certain flou sur cette histoire. Alors, du Mont Blanc, vous décidez de remonter vers le nord. Pourquoi avoir tourné donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Là encore, vous auriez pu le faire dans l'autre sens, votre Tour de France exactement.
Tout à fait. Alors ça, c'est une réflexion et c'est une question que je pose souvent en conférence. Effectivement, pourquoi j'ai fait le tour dans le sens anti-horaire et non pas dans le sens horaire, tout simplement parce que quand vous regardez d'une manière attentive le tracé qu'emprunte la frontière, donc ce filigrane que l'homme a posé sur le territoire, eh bien vous rendez compte qu'il y a 200 km communs sur le Rhin, et le Rhin étant donc ce fleuve qui s'écoule vers le nord, je ne voulais déjà pas mettre trop de difficultés en me disant j'allais le faire à contre-courant en kayak. Donc évidemment, naturellement, le choix s'est fait de descendre le Rhin, donc depuis Bâle jusque vers Wissembourg.
Alors finalement, la vraie question, c'est pas de savoir pourquoi vous êtes parti du Mont Blanc, ni pourquoi vous l'avez fait dans un sens ou dans l'autre, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes mis en tête de faire ce Tour de France exactement ?
Je crois que ça participe justement de l'esprit d'aventure et je crois qu'il n'y a rien qui m'agace plus que de devoir justifier l'aventure quelque part, puisque on ne demande pas à un musicien pourquoi il joue d'un instrument de musique, on ne demande pas à un footballeur pourquoi il tape dans un ballon de football, etc. Je crois que l'aventure quelque part se justifie en elle-même par rapport à toutes les valeurs qu'elle véhicule et surtout par rapport à la capacité d'épanouissement et de joie qu'elle peut apporter à l'être humain et de ce fait même de rayonner. Parce que je me suis rendu compte que finalement dans ce Tour de France, qui a été quelque chose d'extrêmement collectif, eh bien ça a vraiment rayonné et j'avais le sentiment que ça faisait beaucoup de bien. C'était un peu comme une bouffée d'air frais, un peu d'oxygène qui était apporté, un peu de lumière, un peu de beauté dans ce monde qui en a tant besoin finalement.
Et vous avez vraiment réussi à suivre la frontière au mètre près. Il y a bien des fois où ça a dû être
Alors on n'est pas non plus au mètre près, faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que si la frontière est constituée par un fossé encombré de ronces et qu'à 10 mètres du fossé, vous avez un chemin, évidemment, je suis sur le chemin. Mais dès lors que le chemin, je dirais, s'écarte à partir d'une cinquantaine de mètres de la frontière, j'avais le sentiment d'être un peu comme un aimant et d'être ramené vers la frontière. Et là, du coup, je me remettais un peu en mode sanglier parfois.
Vous
parce qu'évidemment, la
fait,
frontière n'est pas un sentier. Et la frontière représente un peu tout ce qu'on peut trouver sur le territoire, c'est-à-dire des lignes de crête quand vous êtes en haute montagne, des champs, des vignobles,
des autoroutes aussi. Parfois, hein, il a fallu traverser des autoroutes.
Il a fallu aussi traverser des autoroutes. Alors évidemment, c'est pas très politiquement correct.
Non, mais bon,
celui qui veut me jeter la première pierre ne se gêne pas.
Des lignes de TGV aussi.
Des lignes de TGV, c'est sûr que et ça quelque part, ça m'a surpris parce que je l'avais pas forcément analysé. Au départ de me dire que dans ma vision naïve finalement que j'avais de la frontière, pour moi il y avait cette espèce de no man's land que je pouvais emprunter et en fait pas du tout, la frontière est souvent extrêmement privatisée parce que vous avez aussi des propriétés privées sur la frontière, on a acheté chacun un côté de la frontière puis un beau jour un acte notarié fait que la propriété chevauche la frontière et du coup vous passez chez les gens aussi quoi.
Alors on trouve des propriétés privées, on trouve aussi des accélérateurs de particules. C'est le cas du CERN qui se trouve à la frontière franco-suisse. Donc en suivant ces bornes, vous finissez par tomber sur le CERN. Et là, vous faites une belle rencontre avec un astrophysicien qu'on connaît bien, Étienne Klein. Et apparemment, votre aventure l'inspire beaucoup.
Je crois qu'il y a un lien secret entre la physique et l'alpinisme qu'il pratique. Le pari de la physique moderne, celle qu'on fait ici au CERN ou qu'on fait en fait depuis Galilée, c'est le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible, c'est-à-dire on peut expliquer les phénomènes qui se déroulent autour de nous par des lois physiques dont l'énoncé semble contredire l'observation. Dodd, lui, il fait un peu l'inverse, c'est-à-dire il prouve l'impossibilité de l'impossible par le réel, c'est-à-dire il fait des choses qui a priori sont infaisables, sauf qu'il les fait, donc elles ne sont pas infaisables.
Dodd, vous l'avez compris, c'est le surnom de Lionel Daudet. Vous avez tout compris ce qu'il vous a raconté, Étienne Klein ?
J'ai dû l'écouter plusieurs fois quand même. Non, mais Étienne, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est passionné de montagne. Et c'est vrai que ça a été pour moi une des très très belles journées de ce Tour de France. S'il fallait en extraire quelques-unes, elle ferait partie un peu du best-of. Parce que voilà, je trouvais que ce lieu qui est le CERN, qui est un lieu incroyable, où vous avez des scientifiques de toutes les nationalités qui travaillent de concert pour un projet commun, qui est supranational, pour moi, est à valeur d'exemple. Hein.
Et on voit tout de suite aussi, grâce à cet extrait, comment votre initiative, vous disiez « j'ai pas à la justifier », mais non, vous avez pas à la justifier, parce que les gens tout de suite rentrent dedans, sont assez séduits et ça les inspire. On l'a vu avec Étienne Klein, mais avec toute personne inconnue que vous croisez, vous parliez de ses propriétés privées, au départ vous êtes accueilli un peu comme un chien dans un jeu de quilles, puis quand vous leur expliquez votre projet, souvent ça passe, même très
bien.
Tout
à fait, ça bascule, évidemment. Il y a des gens qui peuvent être, et je le comprends très bien, un peu agressifs quand j'arrive un peu chez eux à l'improviste. Enfin, souvent, c'était des fermes, des lieux comme ça. Et c'est vrai que quand je racontais mon histoire, tout de suite, il y avait ce basculement, comme si finalement, les gens qui portent en eux, on porte tous une capacité à rêver. Et je crois que la vie est aussi faite pour aller au bout de ses rêves, ou en tout cas de prendre le chemin du bout de ses rêves. Eh bien, je permettais ça aux gens que je rencontrais, et tout d'un coup, c'était un peu un électron libre qui rentrait dans leur quotidien, et cet électron libre leur faisait un peu de bien.
Ouais, ouais. un électrolyte qu'on pouvait suivre sur Internet. Certaines personnes vous ont suivi et vous ont même attendu, du coup, comme cet enseignant qui a été séduit par votre démarche et qui vous a réservé, avec sa classe, un accueil digne d'un grand champion.
Par la jeunesse!
Pas un Tour de France tout bête, c'est un Tour de France qui a une dimension un peu particulière. J'ai trouvé son numéro de téléphone et je lui ai dit, écoute, voilà, tu t'appelles Dodé, moi j'ai un petit collège Dodé qui est assez sympa. Tu fais des sports de pleine nature, on est très dynamique au niveau escalade, VTT, pleine nature. Et en plus, tu fais le tour de la frontière et mon collège, il est sur la frontière. Alors, est-ce que tu voudrais bien donner un petit peu ton temps à venir nous voir? Et puis, il a répondu, bah, écoute, on y va.
Ça encourage, j'imagine, sur son chemin. On était à quel niveau? On était dans le nord,
Là, on est à Lers, qui est donc dans la banlieue de Lille. Et c'est vrai que Jean-Philippe Bossu, ce professeur de gymnastique qui avait entendu parler du projet, a tout de suite tilté. Alors, je tiens quand même à préciser que le collège d'Audet, c'est Alphonse, oui. C'est pas Lionel, évidemment.
Ce sera pour bientôt, c'est pas pour tout de suite. Pas.
Mais on y viendra. Et du coup, ça a été un moment pareil, très, très chaleureux et très émouvant, puisque, en fait, toute la jeunesse s'est servie de ce projet déjà comme un projet pédagogique. À tous les professeurs qui sont intéressés, justement, professeurs de géographie, de sciences naturelles, etc., à l'histoire. Et Jean-Philippe avait anticipé ma venue en essayant de suivre la frontière avec un VTT pour voir après, le lendemain, avec la classe de plein air qu'il avait aussi, pour me suivre et m'accompagner. Et ce qui a été amusant, c'est qu'il avait fait un projet où il avait des fois un peu dévié de la frontière, parce que voilà, c'était vraiment des fossés remplis d'orties ou de ronces dans lesquels je passais. Et en fait, la jeunesse était tellement enthousiaste que d'un seul homme, ils m'ont tous suivi roue dans la roue et il y avait à peu près 25 VTT qui m'ont suivi et qui ont marqué la frontière.
Vous ne les avez pas emmenés traverser les autoroutes, ceux-là?
Non,
quand
je
même,
me suis arrêté avant.
Si vous voulez qu'on donne votre nom à un collège, il va falloir devenir un peu plus raisonnable. Belle rencontre, découverte, exploit physique, Lionel Daudet nous emmène aux confins de la France métropolitaine. Ça aurait été infiniment plus long si vous aviez fait autre chose que la France métropolitaine. Forcément, évidemment, tout ce qui est dom-tom, vous l'avez exclu d'emblée ou alors vous y seriez encore?
Alors, ça sera peut-être l'occasion d'une saison 2 ou une saison 3.
Bon, vous reviendrez nous en parler. Lionel Daudet vient nous raconter son Dot Tour, ce Tour de France exactement qu'il a réalisé en 2011, le temps d'un bivouac sur France Inter. c'était Wakachina, chanté par Monterosso sur France Inter, le temps d'un bivouac.
En réalité, la frontière, c'est la route, ici.
Oui, c'est ça.
Il y a la moitié français, la moitié belge.
Oui, c'est ce que me dit mon GPS, ouais.
Et il dit que la route est en moitié.
Il me dit que la frontière est dessus, quoi. Après,
ouais, c'est ça.
Lionel Daudet qui a effectué le Tour de France en suivant les frontières au plus près. Il raconte son périple dans le Tour de France exactement aux éditions du Seuil. Vous cherchiez vraiment les bornes en permanence sur votre route. Ça a fini par tourner un peu à l'obsession quand même, hein, Lionel Daudet, cette histoire.
Oui, j'étais un peu psychopathe des bornes, il faut bien l'avouer. Mais c'est vrai que je crois que les bornes, déjà, souvent étaient des objets parfois très très beaux. C'est-à-dire qu'elles pouvaient être très anciennes, datées de 1700 et des poussières. Et c'est vrai que c'était une leçon d'histoire qui était un peu que je feuilletais finalement sur ces bornes, parce que vous pouviez avoir l'aigle napoléonien, la croix d'hélice et puis la République française. Donc c'est vrai qu'il y avait tout ça, et quelque part c'était un peu je dirais la chasse au trésor, quoi. C'était un peu le leitmotiv, et du coup il y avait ce côté matérialisation de la frontière au travers des bornes, et qui me permettait donc de la suivre.
Une chasse au trésor qui n'amusait pas forcément tous vos amis.
Vraiment, Dodd, il va de borne en borne, quoi. Ça, je peux te le dire. Il est devenu psychomaniaque, et tous les copains qui l'accompagnent, ils deviennent fous avec ces histoires de borne.
Ça, c'est le témoignage de votre épouse qui vous accompagnait en camping-car, qui s'occupait un peu des ravitaillements, de la logistique, pendant que vous faisiez votre tour. Et voilà, apparemment, il y a certains qui commençaient à trouver que vous alliez un peu loin avec cette histoire.
Oui, c'est vrai. Alors voilà, mais Véronique, ma femme, donc, faisait effectivement l'intendance, puisque effectivement, si j'ai réalisé ce Tour de la France sans moyens motorisés sur la frontière, bien sûr, le soir, pour dormir ou autre, on pouvait aller chez l'habitant, loger dans le petit camping-car qu'on avait avec nous, etc., etc. Et c'est vrai que cette volonté de suivre la frontière a surpris, mais je crois qu'elle a finalement été acceptée. Je me souviens par exemple d'un ami suisse qui était géomètre. Pour lui, c'était que du bonheur, puisque il était encore plus fou que moi, à la limite.
Vous avez trouvé pire. Et alors, c'est aussi l'occasion quand même de voir quelques situations parfois absurdes. Par exemple, un petit tourniquet métallique que vous trouvez au centre d'un grand pré.
Oui, il faut imaginer un peu une porte comme s'il y avait une porte au milieu d'une immense place vide, quoi. Et quelque part, pour moi, ça symbolisait d'une manière assez incroyable, finalement, l'absurdité folle d'une frontière tracée d'une manière complètement arbitraire sur une carte qui fait souvent fi des réalités locales et du terrain, quoi. Et là, je me retrouvais dans un pré. Voilà, vous aviez un immense pré tout vert, avec au milieu de ce pré une borne, et au milieu
de la borne,
à côté de la borne, un tourniquet qui permettait de passer, comme si dans cet espace vide, on avait voulu essayer de mettre une espèce de passage, de barrière
symboliser
à cet
l'ouverture,
endroit-là.
Alors qu'on peut aller partout.
Alors qu'on pouvait passer un mètre à droite ou un mètre à gauche sans aucun souci, quoi.
Oui, il y a des absurdités comme ça tout au long de votre parcours, avec aussi évidemment des choses parfois un petit peu plus graves, parce que ça vous fait réfléchir aussi certains passages aujourd'hui complètement pacifiés par lesquels vous passez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on se battait pour défendre ses frontières et pour les dessiner. Ça aussi, ce sont des réflexions que vous avez menées pendant
complètement votre marche. Parce que c'est vrai que je disais voilà, moi c'est pour finalement pour l'aventure que j'ai fait cette histoire là mais que je suis parti un peu pour l'abstraction de la ligne, comme un alpiniste qui imagine de suivre une ligne dans une paroi, et puis que finalement cette réalité de la frontière qui vous rattrape et qui vous saute à la figure, quoi. Et cette réalité, elle est extrêmement prégnante. Elle est prégnante à la fois par les réalités du terrain. Vous voyez des barbelés, vous voyez des blocos, vous voyez des cimetières, vous voyez des plaques, et par la réalité des rencontres aussi, puisque dans l'esprit des gens, la Seconde Guerre mondiale et puis même la Première, c'est pas forcément si loin que ça, quoi. Et on se rend compte que la frontière à partir de l'Alsace jusqu'aux plages du débarquement est un peu une espèce de cicatrice qui est encore quelque part un peu sanguinolente, et qui est frontière front, le fruit des guerres, quoi.
Vous racontez l'anecdote d'un terrain de football qu'on trouve au niveau de la frontière en Alsace.
Alors, ce terrain de football, justement, permettait aux gens pendant la guerre de fuir, en fait, et de passer en Suisse. Il y avait plein de manières de passer, et notamment bah, des gens qui jouaient sur ce terrain de foot, et puis tout d'un coup, la balle partait très loin, puisque la frontière jouxte vraiment le terrain de football, passait un peu loin dans les taillis, et puis quelqu'un partait la chercher, et puis sauf que, voilà, il revenait pas, il revenait pas sur le terrain avec la balle, quoi. Mais après, des histoires de passeurs, j'en ai entendu d'une manière quotidienne, puisque à partir du moment où vous avez une frontière, vous allez avoir des gens pour aussi vous aider à la monnayer, en le monnayant ou pas, à passer cette frontière d'une manière légale ou illégale. Quoi.
Mais ça nous emmène,
de tout temps.
Ça nous emmène un petit peu plus loin sur votre parcours à Calais. Là encore, l'occasion de réfléchir à ces frontières que certains sont prêts à franchir à tout prix, en prenant tous les risques, et que d'autres cherchent à défendre.
C'est vrai que du coup, moi j'ai été extrêmement frappé justement de me dire, on a cet espace de liberté fabuleux qui est l'espace de Schengen, où chaque Européen peut se balader, je dirais, sans avoir à justifier de papier d'identité ou de passage précis. Et puis là, vous avez une frontière qui est pourvoyeuse de richesses pour les gens qui travaillent d'un côté ou de l'autre de la frontière, tous les transfrontaliers. Et puis, vous avez des gens pour qui la frontière est une barrière, un repoussoir. Et c'est le cas de tous ces migrants que j'ai pu rencontrer à Calais, à Sangatte. Et c'est vrai qu'il y a une véritable douleur, en tout cas pour moi, à avoir rencontré ces gens, à avoir de loin un peu saisi de leur calvaire pour venir jusque-là, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, les frontières sont forcément des lieux différentiels. Donc si, à un moment donné, vous avez une énorme pauvreté d'un côté, puis de l'autre côté, une énorme richesse, bah forcément, vous ne pourrez pas empêcher des flux de personnes. Et depuis l'aube des temps, vous avez des migrations, vous avez des gens qui fuient des pays pour X ou Y raison et cherchent à venir chez nous. Et je crois qu'il faudrait ajouter aussi qu'il ne faut pas oublier non plus que si on vit aussi actuellement en France avec le niveau de richesse qu'on a, c'est aussi parce que quelque part, on va en Afrique prendre certaines richesses. Et du coup, tout est interlié, tout est interconnecté. Et c'est difficile, voire impossible, et je ne vois pas comment on pourrait faire ça, de justement d'étancher des frontières et de vivre dans quelque chose qui serait un vase clos, quoi. Il faut pas oublier que les migrants, finalement, sont les indices d'un bouillonnement du monde. On vit sur une planète, et cette planète, elle est aussi, il y a des endroits où la vie est beaucoup plus dure qu'ailleurs, et du coup, les gens cherchent à fuir ça. Et justement, le fait de voir ça, quelque part, sont des indices de la perception de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Chose qu'on oublie trop, parce qu'on vit dans notre monde avec la lorgnette française, finalement.
Vous pensiez, en entamant ce Tour de France exactement, que vous pensiez à ça, vous pensiez à Sangatte, vous pensiez que vous auriez cette réflexion sur les migrants et toute la misère qu'il y a autour de ces questions-là?
Non, tout à fait, parce qu'en fait, je pense que j'ai vraiment été modelé par ce voyage. Quoi. Ouais. Ce que je disais, c'est que vraiment, je suis parti un peu comme un alpiniste qui dit, bah voilà, cette ligne, elle a du sens de la suivre, parce que en tant qu'alpiniste, les grands massifs alpins des Alpes et des Pyrénées coïncident avec ces lignes de crête, et c'est vraiment un challenge pour un alpiniste que de les suivre. Mais que après, il y avait beaucoup d'endroits où finalement, je me suis retrouvé à hauteur d'homme, je dirais, avec cette interaction et cette réalité de la frontière. Qui est venu un peu comme une bombe à retardement et que j'ai pris en pleine figure, et qui plus est, étant sans moyens motorisés sur la frontière, bah j'ai eu le temps vraiment de m'en imprégner et d'être un peu comme un buvard ou une éponge qui absorbait un peu tous les événements, les rencontres, tout ce qu'on me racontait sur la frontière.
Ouais, et buvard qui absorbe, c'était un peu le cas aussi lorsque vous avez traversé la baie du Mont-Saint-Michel à vélo, complètement embourbé dans la vase.
Je suis pas bien là. Je suis coincé.
Dans un trou ?
Oui.
J'essaye de prendre mon vélo. Fais gaffe à votre.
Est-ce qu'il s'est enfoncé, tu vois ?
Putain. Putain, j'avais les pieds coincés dans la vase là.
Pourquoi il est parti avec son vélo là-dedans en fait ? C'est nul.
La scène est encore plus drôle à voir, mais déjà, on l'imagine un petit peu. Faut vous voir au milieu de cette baie, complètement embourbée avec votre vélo. Et puis, votre femme qui vous regarde avec à la fois une infinie tendresse et presque un peu de l'incompréhension. Mais qu'est-ce qu'il fait là avec son vélo?
Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la frontière, j'essayais de l'analyser, ou le littoral, puisque l'idée était de suivre finalement la frontière après entre la terre et la mer. était de choisir le meilleur moyen non motorisé au moment où je traversais. Donc finalement, qui était pour moi de retomber dans un domaine d'aventure, dans le sens où j'avais une inconnue devant moi, je savais pas en gros à quelle sauce la frontière allait me manger. Ouais. Et du coup, parfois je prenais des options qui s'avéraient bonnes, et parfois des options qui s'avéraient complètement désastreuses, comme l'idée justement de traverser en plein hiver la baie du Mont-Saint-Michel sur mon VTT en plein milieu. Quoi. Et ça, c'est vrai que je plaide coupable. C'était voilà, une absurdité.
Les images en attestent.
Mais je crois que c'est
aussi
L'être humain qui aussi fait des erreurs. On a beau être entraîné, on a beau essayer de maîtriser des choses, et à un moment donné, la nature, parfois, est toujours plus forte, et il faut chercher à participer avec la nature et non pas la dominer. Et puis voilà, des fois on est un peu remis en place, et ça a été le cas au Mont-Saint-Michel.
Un petit peu. Allez, on continue notre Tour de France exactement avec Lionel Daudet dans un instant. Lionel Daudet, alpiniste et écrivain, auteur du Tour de la France, exactement paru aux éditions Stock. Vous avez, vous aussi, des talents de compositeur-interprète qui se sont révélés lors de votre Tour de France, exactement. Ce défi dans lequel, je le rappelle, vous vous êtes lancé, aller scruter la France depuis ses limites, faire le tour de l'Hexagone en suivant la frontière, exactement. Et au fil de la route, eh bien, vous avez écrit votre chanson.
Oui, alors on va peut-être pas la passer à l'antenne parce que je suis vraiment très très mauvais chanteur, mais je crois que j'étais un peu comme un espèce de troubadour qui écrivait sa chanson de gestes et qui finalement chaque jour sur par exemple ces longues plages des Landes, eh bien j'avais pas forcément à besoin d'être très très concentré sur ce que je faisais. Donc du coup, j'avais l'esprit qui divaguait, et justement je m'inventais une chanson qui parlait justement de se voyages sur la frontière, de ce que ça apportait aux gens, des lieux traversés, des points d'orgue. Et justement, c'était un peu finalement... ce sentiment d'être comme un oiseau qui chante sur la frontière quelque part, et j'avais ce besoin d'exulter, ce besoin d'exprimer ma joie, et je crois que la chanson est un bon moyen pour exulter.
La chanson de Lionel Daudet, d'ode pour les intimes, ce serait dommage quand même de ne pas en faire profiter nos auditeurs.
This is d'ode on the road. This is d'ode on the road. This is d'ode on the road. He stops at a crossroad.
This is dirt on the road. Follow the border of friends. It's my only space, living just a footprint to bring oxygen.
To people who need it. Bon, je chante un peu faux quand même, hein. Mais bon, je m'éclate.
This is Dodd on the Road. Avec l'orchestration, ça sonne hein, quand même, oui, cette chanson, mais... Lionel Daudet.
C'est autre chose que ce que je fredonnais sur le littoral.
Oui, alors après ces longues traversées, vous l'avez dit, vous aviez le temps de composer votre chanson. Vous arrivez aux Pyrénées, vous allez être bien entouré. Plusieurs amis vont vous suivre pour cette longue traversée des Pyrénées.
Oui, il y avait du coup deux alpinistes aguerris des Pyrénéens, et surtout il y avait toujours cette idée que pour moi la frontière constituait finalement une terre de lien et un trait d'union, donc d'être le plus possible avec des gens qui étaient de l'autre côté de la frontière justement, et c'est pour ça, ça me tenait vraiment à cœur que à la fois les alpinistes qui m'accompagnaient, il y en avait un qui était espagnol, et puis aussi il faut ajouter qu'aussi on avait une équipe un peu de soutien, de Sherpa en quelque sorte, qui nous alimentait, qui nous amenait des vivres ou du matériel à certains points clés de la frontière, et souvent c'était aussi des couples franco-espagnols, quoi.
Alors ce sont vos amis qui vous accompagnent ou aussi vos victimes, je ne sais pas trop comment il faut le dire en fait.
Mais ça fait 3 jours qu'on marche. 12 heures par jour, ça c'est invivable. Il n'y a pas un syndicat. Oui, les syndicats des victimes de Lionel Daudet.
Voilà. C'est de tour.
On va les appeler.
Voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est que Daudet, il trouve ça normal en fait.
Voilà. Aujourd'hui, il a dormi par terre, c'est un matelas.
Ça t'a choqué, hein.
Ça déconne. Mais la barre un peu trop haute en fait.
Ouais, puis en plus, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas que de la marche, quoi. C'est qu'il y a souvent des chicots au passage, il y a des barres rocheuses, il y a de la neige pourrie.
J'ai tombé dans une crevasse hier, failli mourir.
On a vu Martin disparaître dans la neige, il restait plus que la tête au-dessus.
Du grand alpinisme.
On l'a un peu bu, quoi.
Oui, la joyeuse troupe des alpinistes qui vous accompagnent. Il y en a quand même un qui dit il met la barre un peu haut. C'est vrai que vous avez l'air d'être un acharné, hein, Lionel Daudet.
Oui, c'est. Alors je sais pas, ça peut être une qualité ou un défaut selon le sens dont on veut le prendre. C'est vrai que en tout cas, je crois qu'il faut cette énergie-là pour aller au bout de ces histoires-là, parce qu'on se rend pas compte à tel point c'est difficile d'empiler les étapes et puis de s'installer dans une immensité, dans une durée et quelque chose d'infini. Et je me souviens quand je me rapprochais, donc on fait un petit saut un peu plus vers le Mont Blanc. J'étais avec des alpinistes dont c'était un peu le jardin, je dirais, l'arrière-cour, et qui avaient ce décalage finalement entre les internautes qui postaient leur message en disant t'es presque arrivé, et puis cet alpiniste qui était avec moi et qui me disait mais quel chantier encore il te reste pour aller jusqu'au Mont Blanc, quoi. Ouais. Donc il y avait vraiment aussi cette idée de voyage qui était un peu infini et qui quelque part correspond aussi, je dirais, à la dimension et à la distance de la frontière, parce qu'en fait vous avez cité des chiffres sur la frontière, ce sont les chiffres officiels, mais on se rend compte que ces chiffres en fait sont faux, puisque ils sont juste le fruit d'une modélisation, quoi, et que la réalité de la frontière, en fait, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une fractale. C'est une ligne qui, si à chaque fois que vous zoomez, finalement, sa distance augmente, puisque on accroît les détails, finalement, les rugosités, les aspérités, quoi. Et j'avais ce sentiment, finalement, à la fois la frontière était une fractale et que mon voyage finalement devenait une fractale, parce que j'avais le sentiment que ça tirait vers un infini et que j'en voyais pas le bout, quoi.
C'est vraiment vrai pour les Pyrénées où vous restez coincé, hein. Là, vous n'en voyez pas le bout parce que vous ne pouvez plus avancer, hein, à un moment dans les Pyrénées.
Complètement. Je crois que c'était aussi le luxe et la poésie incroyable de ce voyage, d'être parti finalement sans avoir de date limite de retour. J'étais pas parti dans l'idée de faire un marathon, quand bien même des journalistes m'avaient dit, le Tour de la France, j'avais estimé en en gros 10 mois et demi sur le papier. Donc je m'étais dit, en un an, c'est à peu près possible. Mais en fait, c'est bien juste sur le papier, parce que dans la réalité du voyage, moi, j'avais pas envie d'un marathon. Et du coup, je pouvais me permettre d'attendre justement quand la météo devient exécrable au milieu des Pyrénées. Il faut se rappeler que c'était le printemps, donc beaucoup de chutes de neige, beaucoup de vent très fort et du coup finalement une montagne qui ferme ses portes. Et je crois que c'est aussi une des grandes capacités de l'alpiniste que de faire preuve d'humilité en fait. C'est ce paradoxe d'être plus entraîné possible et puis finalement d'être très très humble par rapport à la montagne et d'être capable de dire bah non, là ça le fait pas. Eh bien, on attend et c'est mon luxe puisque j'ai le temps.
Ouais, avec des passages en spéléo également.
Complètement, c'était aussi une idée finalement d'offrir un prétexte d'aventure à ce voyage, d'ouvrir sur tous les visages de l'aventure, un peu comme si ce Tour de la France Exact était comme un arbre et puis que sa ramure se déployait le plus large possible avec plein de branches. Et l'une de ces branches, justement, c'était la spéléologie qui m'avait marqué étant gamin, même si je ne fais pas vraiment de spéléo. Mais du coup, j'ai eu envie d'inclure la spéléo et justement, j'ai rencontré depuis plusieurs années Philippe Bins, qui est un spéléologue émérite. Et justement, on a choisi la Pierre Saint-Martin, qui est un gouffre mythique pour les spéléologues, et surtout qui offrait, ce qui était très intéressant dans notre histoire, le fait de passer la frontière sous terre, à 600 mètres sous terre. Donc on est allé voir sous terre à quoi ressemble la frontière.
Il y a une borne au fond de ce gouffre ou pas quand
Non,
même
justement, parce qu'en fait, on se rend compte que la frontière n'existe ou n'est matérialisée qu'à partir du moment où il y a des enjeux humains. Et sous terre, il n'y a pas d'enjeu, sauf dans des enjeux miniers, mais là, ce n'est pas le cas à la Pierre Saint-Martin. Donc, finalement, vous êtes dans un univers de souterrain merveilleux. Vous avez l'impression d'être dans une espèce de palais de Versailles étonnant, avec un palais des glaces qui serait des vasques remplis d'eau miroitante, des stalagmites qui seraient un peu ou des stalactites qui seraient un peu comme des lustres. Et finalement, vous avez la beauté de la nature et finalement, vous avez aucune empreinte humaine, donc aucune frontière.
Ouais. Et puis alors après les Pyrénées, la spéléo, cette fois-ci la Côte d'Azur, et cette fois-ci c'est la voie des mers que vous prenez avec le canoë cette fois-ci.
Complètement, parce que c'est pareil, j'arrive début juillet sur la Méditerranée, donc en plein pic de la saison touristique, puisque j'avais pris énormément de retard dans la traversée des Pyrénées, et du coup je me voyais mal slalomer avec mon VTT entre les serviettes. Ouais. Donc du coup, on a décidé d'adopter le littoral côté mer, donc d'être finalement derrière le train de vague, et finalement c'est une solution qui a été vraiment fabuleuse. Et puis il y a eu aussi quelques apartés, comme par exemple la traversée des Calanques de Marseille jusqu'à Cassis, qui s'est fait en escalade parce que ça présentait aussi pour moi un sens historique extrêmement fort.
Ça y est, la facette méditerranéenne est terminée. On a retrouvé la frontière italienne, ça faisait 11 mois ou 12 mois que je l'avais quittée. C'est cool. Et il a bien ramé le dodin, hein. Il est champion olympique des guides de haute montagne sur la Méditerranée en kayak de mer. Oui, je vous le dis.
Ça fait un nouveau titre à ajouter au palmarès de Lionel Daudet. Alors, après, vous arrivez à la frontière, c'est la dernière ascension, la dernière ligne droite. Il faut revenir à son point de départ, le Mont Blanc. Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, ça a été un passage compliqué, cette dernière étape.
Oui, c'était un peu la dernière facette, last but not least. Et justement, de se dire, il y a une vraie difficulté pour moi à regagner le Mont Blanc. Puisque on est, je dirais, à la fin de l'été, et que je sais que plus je vais m'avancer vers le nord, plus je vais aller vers des journées courtes, des journées froides, et vers des sommets de plus en plus hauts, donc de plus en plus de neige, donc de plus en plus de difficultés à progresser. Et puis de se dire, voilà, il y en a déjà beaucoup dans les pattes, donc il commence à y avoir une fatigue générale qui s'installe aussi, quoi.
Retour à la case départ, donc arrivé au sommet du Mont Blanc, avec, on s'en doute, une certaine émotion.
Super les gars. Et voilà, Mont Blanc, point de départ et point d'arrivée du tour.
Putain. T'as dit quoi, Dod?
Je dis pas grand chose parce que je suis ému là et ça me monte à la tête là. On est au Mont Blanc. Ouais, on est au Mont Blanc. Et on risque
Ouais, c'est trop dur. Excuse-moi, Véron.
Les larmes de Lionel Daudet, 15 mois après être parti, vous remplissez le défi, vous, voilà, ce défi que personne n'avait jamais fait auparavant, suivre la frontière exactement. On le sent, vous êtes ému, vous devez être aussi très fatigué. Et à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentiez?
Il y a une confusion un peu, il y a un mélange de plein de choses. C'est extrêmement diffus quand j'arrive justement à ce Mont Blanc qui était pour moi un point quelque part inaccessible. C'est un peu comme l'alpiniste qui arrive au sommet de sa montagne après des jours et des jours d'ascension. Et je crois qu'il y avait à la fois la joie immense, le bonheur fou d'être allé au bout de ce rêve et de ce pari finalement incroyable, dont j'étais pas du tout sûr de l'issue avant de partir. Et puis aussi une forme de tristesse parce que finalement ça s'arrêtait et que cette page finalement il fallait mettre le point final et elle se tournait. Donc il y avait cette ambiguïté entre les deux et cette espèce d'euphorie finalement, ce sentiment d'être justement un peu en apesanteur parce que quand vous êtes au sommet d'une montagne, à un sommet, il y a souvent quelque chose de très curieux. Vous avez parfois le sentiment d'appartenir plus au monde du ciel qu'au monde de la terre, parce que vous êtes dans la troisième dimension, vous êtes dans la verticalité, quoi. Et justement, pour moi, j'avais le sentiment d'être vraiment définitivement un peu dans un état d'apesanteur au sommet du Mont Blanc.
Vous êtes revenu transformé. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, ou même sur votre vision même de la France?
Ça change beaucoup de choses, puisque justement, moi, je vous le disais, j'étais parti avec cette vision très abstraite, ou cette vision d'écolier, finalement. Et je me suis rendu compte de plein de choses. Par rapport à tous les gens que j'ai pu côtoyer, j'ai eu ce sentiment d'être complètement en déphasage par rapport à ce message médiatique qu'on vous tabasse à longueur de journée, que la France va mal, les Français sont râleurs, etc., etc. Il y a une morosité. Moi, à 98%, 99%, ça était que du bonheur. Les gens étaient super accueillants. Les gens m'ouvraient leurs portes, m'invitaient chez eux. Et les gens pouvaient avoir aussi des difficultés. Bien sûr, dans le nord de la France, par exemple, vous avez des zones qui sont dévastées par le chômage, etc. Mais après, je crois qu'il y a une attitude personnelle des gens face à ça. C'est un peu comme être au pied d'une montagne. Vous levez la tête vers le haut et vous essayez de trouver une solution à votre ligne d'ascension, quoi. Et je crois que j'ai plus fait face à ces gens-là que à des gens qui étaient complètement dépressifs ou hyper moroses, quoi. Et puis après, j'ai eu aussi ce sentiment que les gens que je rencontrais étaient bien à leur place. Il y a vraiment ce sentiment, ouais, que le Français aime la France et aime son terroir, quoi. Et à chaque fois, c'était ce que j'ai appelé le syndrome des gens bien à leur place, ouais, où vous pouviez être à Dunkerque et les gens me disaient « mais c'est super Dunkerque, il y a une chaleur chez les gens, il y a le carnaval, et puis l'Angleterre est en face, la Belgique est à côté, etc. Et » Et ça a été une récurrence, quoi. Et je me suis dit « mais si notre monde, si notre pays allait si mal que ça, on devrait avoir affaire à des flux migratoires terribles, quoi. Les gens devraient fuir les régions. » Et en fait, pas du tout. Il y a cet ancrage que j'ai perçu qui était vraiment viscéral, quoi.
Robert, qui nous suit, a envoyé ce message par mail pour vous. On ne sait pas si le sommet du Mont Blanc est gaulois ou romain. Peut-être faut-il désormais rendre à César ce qui lui appartient et dire qu'il est européen.
Oui, je crois qu'on pourrait même dire que le Mont Blanc devrait être inscrit un peu au patrimoine mondial de l'humanité et appartenir, ouais, à l'humanité entière. Et je voudrais ajouter quelque chose qui me touche vraiment dans cette histoire-là, c'est que dans les pays du Nord, en Norvège, Finlande, Suède, vous avez quelque chose qui est inscrit dans la Constitution qu'on appelle l'Allemannsrecht, qui est le droit pour tous à jouir de la nature. Et je crois que finalement, c'est un droit que j'estime fondamental, qui n'est pas inscrit dans notre Constitution, et ce droit dans les pays du Nord est plus fort que le droit de la propriété privée. Vous pouvez aller vous balader chez quelqu'un, à partir du moment où vous ne le dégradez pas, évidemment, tout simplement parce qu'on estime que c'est fondamental pour l'homme, ouais, de jouir de cet espace. De même qu'en France, ce serait un peu le pendant, on a le Conservatoire du Littoral avec, ouais, les lois littorales qui, justement, normalement, devraient offrir la mer à tout le monde parce qu'on estime que, finalement, c'est dans l'équilibre intérieur de l'homme de pouvoir jouir de tous ces espaces, ouais. que ce soit ces espaces de montagne, que ce soit ces espaces de littoral.
En fait, après avoir suivi ces barrières, ces frontières, vous auriez envie de les voir sauter.
Bah, en fait, on se rend compte déjà que la question de la frontière, elle est très complexe, c'est-à-dire que elle est pas où on croit qu'elle existe. Pour nous, en tout cas, c'est-à-dire que elle est très poreuse, elle s'efface depuis les accords de Schengen. Vous avez la disparition des douanes. Après, elle existe pour les migrants justement, mais après, elle s'est complètement déplacée. Elle existe dans nos têtes parce qu'on se représente en tant que Français par rapport à l'Hexagone. On a une représentation mythique de ça. Mais à l'heure actuelle, moi, dans mon tour, j'ai jamais eu un seul contrôle de douane. Et bien souvent, les gens savent même plus où est la frontière. Donc, elle tend à disparaître. Et je crois que c'est pour moi quelque chose de très important aussi qui m'est apparu dans ce voyage. C'est ce sentiment d'être devenu beaucoup plus européen finalement que je l'étais. Alors, au-delà des problèmes que peuvent générer l'Union européenne, mais de se dire d'avoir la garantie de cet espace de paix au sein de l'Europe, pour moi, c'est sans prix. Et j'ai en tête cette citation de Victor Hugo qui disait « Voilà, une guerre entre Européens est une guerre civile ».
Dans un instant, on reste en France et on file sur les rives de l'étang de Berre. C'était Berceuse de Rita Mitsuko, mais la version en chinois mandarin, s'il vous plaît. La programmation musicale est signée Jubaka. Et après avoir entendu Lionel Daudet et ce Tour de France exactement, dont je rappelle que l'on peut retrouver l'intégralité du récit dans son ouvrage Le Tour de la France exactement aux éditions du Seuil, on reste en France, mais on met le cap sur un étang.
Vous n'avez pas un petit journal par hasard.
Les pages voyage de Libération sur France Inter.
Les nouvelles sont bonnes.
Excellente, patron.
Bonjour, Joran Hofnagel.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction à Libération et cet été, Libé nous propose de redécouvrir des endroits que vous qualifiez de bijoux méconnus. Aujourd'hui, l'étang de Berre, un endroit qui fait parfois parler de lui pour ses industries polluantes, mais qui a des atouts touristiques alors, Johan.
C'est certain, si jamais je vous dis étang de Berre, la plupart de vos auditeurs comme vous vont penser raffinerie, pétrole, pollution, port industriel. On est loin des cathédrales, des golfes de Corse. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que l'étang de Berre a eu la drôle d'idée d'essayer d'inscrire son système au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça peut surprendre évidemment parce qu'on pense au patrimoine mondial à des choses qui sont absolument magnifiques, des petits golfes de Corse. Je vous rappelle que le bassin minier, les bassins miniers du nord du Pas-de-Calais sont inscrits au patrimoine mondial depuis 2012. Donc voilà, là c'est certain que l'étang de Berre ne correspond pas forcément à ce qu'on attend du côté du patrimoine mondial. Il n'empêche qu'ils ont en effet un certain nombre d'atouts. Ouais. C'est certain qu'on va pouvoir aller là dénicher des trésors naturels, des ouais. calanques, des petites maisons provençales.
Vous décrivez des endroits qui ont vraiment des allures de carte postale dans votre article.
Oui, en effet, c'est Stéphanie Arougnan, notre correspondante à Marseille, et elle est un peu plus à l'ouest que sa ville. Elle commence un voyage à Saint-Chamas. Alors j'espère que je prononce bien le nom parce que je suis pas provençal. On y arrive en traversant une pampa locale. Alors c'est de la garrigue, c'est du vignoble. On passe là, effectivement, on tombe dans le cliché, une grosse centrale électrique qui va barrer le paysage. Et là, bim, on tombe sur une carte postale. C'est un petit port, donc le port de Saint-Chamas, qui est accroché aux collines avec des barques qui bronzent au soleil, les petites maisons troglodytes. On est vraiment à un endroit où on a du mal à imaginer cette espèce d'ensemble où on peut aussi faire du tourisme industriel
et
historique.
Ouais. Et puis Johan, il y a le site que l'on nomme la Petite Camargue, à pas confondre avec la Camargue, la Petite Camargue, très intéressant sur le point de vue écolo.
Oui, en effet. Alors évidemment, là, pour retomber aussi dans les clichés, le roi du coin, c'est le moustique. Mais on trouve surtout des très très belles libellules, des libellules géantes, plein d'oiseaux, des cygnes, des hérons cendrés, même des flamants roses. Et si on va un peu plus dans la partie sud de l'étang, il y a le fameux, la petite partie de l'étang du Poura, qui est vers l'est. On va y croiser des canards, des cormorans et même la talève sultane. Et le clou du spectacle, c'est le parc de Figuerolles, qui est pas très très loin de Martigues, qui ressemble, paraît-il, à la Corse.
L'article s'intitule Berre, avec l'étang tout s'en va. Avec l'étang va, tout s'en va. Il est signé Stéphanie Arougnan. À découvrir donc dans les pages Voyage de Libération Week-end. Merci Johan Hufnagel et à la semaine prochaine.
Merci.
Les épreuves sont terminées. Il y a pas un dragon qui passe par là. Personne à délivrer. Mais c'est la retraite. Passe-moi mes chaussons, maman.
Lundi à 16h, nous partirons en expédition sur les glaciers du Chili et des Alpes. Nous verrons comment conserver les précieuses informations que renferment ces glaciers menacés par le changement climatique. Et puis à 17h, nous reviendrons sur un drame survenu à Chamonix en 1956 qui défraya la chronique, l'affaire Vincent Don et Henri. À lundi donc pour de nouvelles aventures.